Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Voltaire, en son temps, parlait du superflu si nécessaire. Flaubert, lui, le géniteur littéraire de la dispendieuse Madame Bovary, affirmait que le superflu est le premier des besoins. Eh bien, on peut l'appliquer à la mode. Je reçois aujourd'hui un jeune couturier de grand talent qui, après avoir ressuscité la maison Carven, a réveillé une autre belle endormie. La maison Patou, rachetée en 2017 après 30 ans de sommeil par le groupe LVMH et acquis depuis 2018, Guillaume Henry, donc, insuffle son énergie créatrice pleine d'une fantaisie aussi couture que joyeuse. C'est donc un homme de mode, bien dans son temps, qu'on va découvrir au cours de cette promenade et qu'on va découvrir, je l'espère, sous presque toutes ses coutures.
Europe 1.
Bonjour Guillaume Henry.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors cher Guillaume Henry, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes se réinventent par le vêtement. En réalité, que met-on de soi dans un vêtement ?
Que mettons de soi dans un vêtement ? Énormément, énormément. En tout cas, moi, ce que j'apprécie davantage, c'est quand les gens s'habillent pour soi que pour les autres.
Ouais.
Et quand le vêtement révèle l'individu plutôt qu'il ne le cache. Et parfois, on a tendance à trop observer des exemples de mode qui camouflent les personnalités. Moi, j'aime bien quand la mode est révélatrice de personnalité. Ça me plaît beaucoup.
Alors, le vêtement, c'est un message social qui dit nos humeurs, nos appartenances et puis parfois nos moyens financiers. La plume fait l'oiseau.
Ou l'habit fait le moine.
Par exemple, au choix.
Oui et non. En fait, ce qui est magnifique en mode, c'est que tout existe. Des gens avec beaucoup de moyens qui n'ont aucun goût, des gens qui n'ont absolument pas de moyens et qui ont une allure folle.
Ouais.
C'est pour ça que moi, par exemple, en tant que designer, j'ai plutôt tendance à être inspiré par une forme d'anonymat. Ce qui est bizarre, c'est que pour créer mes collections, généralement, je m'inspire de tout sauf de mode.
Ouais.
Je m'inspire de films, de musique, de livres, de musées, quand on a la chance encore de pouvoir les visiter. Mais aussi beaucoup de choses qui sont...
Vous photographiez aussi beaucoup dans la rue.
Ah oui, alors je suis un paparazzi.
Une dégaine, une allure, le détail d'un vêtement.
Voilà, ne soyez pas surpris si je vous prends en photo de dos. Je ne suis pas un pervers, c'est juste que j'aime le tombé d'un manteau, la longueur d'une jambe, la forme d'un sac, même le porté. Vraiment, pour dessiner des vêtements, même le porté ou le geste m'inspire énormément.
Oui. Alors, on connaît toutes et tous ces phrases. La mode, c'est ce qui se démode, Cocteau. Les femmes aiment la mode parce qu'elles croient que la nouveauté les rajeunit, Mademoiselle de Scudéry. À quoi Sophie Fontanelle, romancière et observatrice de génie pour l'Obs, ajoute « Sans cet amour fou qu'on lui porte, la mode n'est rien ». Mais alors pourquoi la mode fait-elle battre si fort le cœur des femmes alors que leurs vestiaires se ressemblent presque tous, c'est-à-dire aujourd'hui jean, basket et doudoune ?
Jean, basket, doudoune, c'est vrai, et je ne vais pas vous dire que ça m'enchante.
J'imagine.
C'est un peu un uniforme un peu triste, c'est comme si on mangeait tout le temps le même plat sans épices, on va dire. Moi, je pense que les femmes aiment la mode parce que la mode, elle sait être tendre avec elles. Elle sait être douce. J'aime la mode quand c'est une alliée. Et en tout cas, moi, dans ma façon de l'envisager, je la travaille comme ça.
Mais alors tout de même, Guillaume Henry, ce côté versatile de la mode qui se fait et se défait en permanence. En fait, la mode, elle boude le soir ce qu'elle a adoré le matin. Bon, ça induit d'être infidèle à tout ce qu'on crée. C'est pas usant d'être infidèle ?
En fait, on est infidèle à des détails, mais terriblement fidèle dans les grandes lignes. C'est comme si vous disiez d'un réalisateur qui fait tout le temps le même film. Eh bien, c'est pas vrai. Il a tout le temps la même quête, mais il a le droit de se contredire. Il m'arrive, aujourd'hui, je porte un pull rose, il en était hors de question il y a deux mois.
Lila,
c'est vrai, c'est plus juste. mais il y a deux mois, c'était complètement impossible. Et aujourd'hui, pour moi, c'est presque un beige. Vous voyez. Mais c'est aussi parce qu'on est très, très, très sensible aux humeurs du temps. La mode, voilà, je suis pas météorologue, hein, mais la mode, c'est aussi une capture du moment.
Alors, justement, parlons de temps, je prends la balle au bon. Le calendrier des défilés, c'est 4 collections par an, mais toujours décalées, puisqu'on présente les collections d'été en janvier et les collections d'hiver en juin. Vous trouvez absurde hein, ce système. Vous dites qu'il faut faire dans la mode, en fait, comme on fait dans la gastronomie avec les produits de saison, c'est ça ?
Alors pardonnez-moi, je parle tout le temps de nourriture, mais c'est vrai que de la même façon que j'aime les choses gourmandes, appétissantes et que la mode pour moi c'est quelque chose d'aussi frais que quelque chose qu'on a envie de dévorer, Je comprenais pas qu'on puisse trouver des maillots de bain en hiver ou des gros manteaux l'été. Alors oui, il y a une clientèle pour ça. C'est clair,
il y a la clientèle, effectivement, qui va partir aux Seychelles, alors que tout le monde fête Noël ici.
Exactement, mais moi, encore une fois, je suis un designer qui n'est bon que quand il travaille pour une clientèle qu'il connaît. Et moi, la femme que j'habille, c'est une femme que je connais, c'est une femme avec qui je travaille. Je dis souvent que j'ai envie de plaire autant aux... Enfin, plaire, c'est très présomptueux, mais j'ai envie de donner envie, en tout cas, aussi bien à des gens pointus de la mode qu'à, je cite souvent ma cousine de Dijon. voilà, ne pas être élitiste. Et quelque part, ma cousine de Dijon, le maillot de bain en décembre, elle s'en fiche complètement. Hein. Donc, et j'aime bien quand la mode se prend pas trop la tête, ce qu'elle a pu avoir, enfin, elle a pu un peu snobber quand même. Et moi, j'aime bien quand la mode, elle est aussi dans un aspect contemporain, dans la vie des gens, et pourquoi pas vendre les choses dont on en a besoin quand on en a besoin.
Alors, vous êtes en train de rectifier tout ça avec la maison Patou.
Avec Patou, exactement. On a décidé de faire des collections d'été l'été, d'hiver l'hiver. Et finalement, on était quasiment les premiers à faire ça. Et dans les premiers moments, j'ai eu peur que la réponse des... Alors, les retailers, c'est un terme un peu compliqué.
Il faut expliquer aux auditeurs ce qu'est un retail.
Ce sont les acheteurs, voilà. Étaient un peu peut-être... J'avais peur qu'ils soient effrayés, voilà, parce que c'est une grande habitude. Vous parliez des collections, du rythme.
Une grande habitude absurde, voilà. Mais une grande habitude.
Bah, absurde. Je pense qu'à un moment, les gens étaient dans une quête de quantité. Et puis, en fait, les habitudes ont changé. Oui. C'est-à-dire que là où on investissait très, très régulièrement dans la mode, on a commencé à investir ailleurs. Et c'est vrai que les restaurants sont devenus sexy. On pouvait partir à l'étranger pour beaucoup moins cher.
Oui.
Plutôt que d'acheter un manteau, pas mal de mes copines commençaient à utiliser cet argent pour aller un week-end à Barcelone, oui. Un aller-retour oui. à Londres.
Oui.
Et je me suis dit, mais à ce rythme-là, qu'est-ce qu'on va faire, nous? plutôt essayer d'être, de ralentir la cadence. Et je sais pas tout, on s'est dit...
Mais de cibler et viser, juste.
Exactement, c'est ce qu'on s'est dit, je sais pas tout. Essayons d'être, encore une fois, la mode est une capture du monde. Essayons de prendre un peu la température du monde et comment les choses évoluent.
Alors, Guillaume Henry, on nous rabat les oreilles avec le mythe de la Parisienne. La Parisienne qui a tant de chiens, de goût, qui a une dégaine stylée sans effort. Bon, cette Parisienne-là, qui a fait fantasmer le monde entier. Hein. Bah, j'avoue que je la cherche quand même dans les rues de Paris et je me dis que c'est une chimère qui fonctionne encore à l'étranger. Mais alors, pour combien de temps? Bon, on ne sait pas. La Parisienne chic, canaille et libre, vous pensez que c'est une projection de couturier, ça?
Bah alors, je ne sais pas tout, il y en a beaucoup comme ça, quand même.
Ah,
je suis entouré
de la chance.
Je suis entouré d'une équipe de Parisiennes chic et canaille quand même, mais vraiment oui, il s'agit d'une image qui a été récupérée à l'international, mais qui a été aussi drôlement transportée par des figures et des icônes et au panthéon des ambassadrices de la France. Je pense à Jeanne Moreau, je pense à Catherine Deneuve et encore même plus récemment Inès de la Fressange qu'on adore bien sûr. Et aujourd'hui même une Clara Luciani, une Caroline de Maigret.
Ouais.
Et oui, moi je crois qu'elle existe cette française et cette Parisienne, moi, on me dit souvent que je l'habille. Alors, peut-être, je ne sais pas. Je pense surtout que je mets dans mon travail toutes ces inspirations que j'ai avec lesquelles j'ai grandi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des films de Claude Sautet. Mmh. J'ai grandi avec les figures de Stéphane Audran, les héroïnes chabroliennes, la Parisienne dont le talon claque sur les pavés de Paris. Donc oui, donc, forcément, elle se retrouve un peu dans mon travail.
Et ça plaît à la cousine de Dijon.
Et à la cousine de Dijon, et aussi à Tokyo, à New York, c'est une image,
voilà.
C'est très beau, c'est une image qui voyage.
Hélas, on a toujours un chrono qui court, et comme j'ai 1000 questions à vous poser, c'est vrai que c'est très frustrant ce temps comme ça, qui file entre les doigts, mais rapidement, cette question Guillaume Henry, en matière de mode quand même, qu'est-ce que Paris a de plus à dire et à montrer que Milan, Londres, New York, parce qu'on parlait de la Parisienne, parlons de Paris. Paris restera la capitale de la mode, ou ça aussi ça part en fumée?
Moi je pense pas que Paris soit nécessairement la capitale de la mode, mais c'est peut-être là où il se passe les plus belles choses.
Réellement?
Je crois.
Bon, on va parler de tout ça dans un court instant. On retrouve tout de suite Guillaume Henry.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Ne pas se fier à la juvénilité de son visage. Cet homme a une expérience folle dans la mode. Il a dirigé Carven, Nina Ricci. À présent, Patou. Patou qui renaît après 30 ans de sommeil. Je reçois Guillaume Henry. Guillaume Henry, souvent, très souvent, lorsqu'on interroge un couturier sur ce qui a fait naître chez lui enfant sa vocation, eh bien il vous répond « Ma mère, lorsqu'elle venait m'embrasser le soir dans ma chambre, divinement élégante, avant de sortir. » Voilà, j'ai le bonheur de recevoir plusieurs couturiers. Et cette réponse-là, franchement, je l'ai souvent, souvent entendue. En tout cas, c'était celle de Saint-Laurent, c'était celle de Lagerfeld. Bon, vous nous confiez une toute autre histoire où il est question des défilés poétiques et somptueux de Saint-Laurent et de Christian Lacroix, retransmis à la télé et commenté par la voix hypnotique de Viviane Blassel.
Oui, souvenir ému et encore très présent. Ouais, je pense que c'était chez mes grands-parents. Je devais avoir l'âge de 9 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, la mode était vraiment, ça faisait vraiment partie du patrimoine français. Ça passait aux actualités, au journal de 20h.
C'est ça, ce qui n'est plus le cas.
Ce qui n'est plus le cas, je crois. Et Viviane Blassel, immense journaliste pour laquelle j'ai une affection folle, commentait les présentations et j'étais saisi devant un défilé couture de Monsieur Saint-Laurent et je me souviens avoir dit à mes parents, je veux faire ça.
Il paraît que vous aviez été fasciné par une gerbe de blé qui envoyait
Exactement.
Des éclats d'or portés
Absolument.
Par la mariée à la fin du défilé.
Mais je me suis dit, quel poète, à 9 ans, je ne pense pas que je me dis ça, aujourd'hui, j'extrapole. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça follement fantaisiste de faire défiler une mariée avec un bouquet de blé. Et les gens avaient l'air heureux, je trouvais les femmes très belles, la lumière était dingue.
Il y avait une musique
merveilleuse. Incroyable. Je disais, mais
et les femmes étaient belles.
Et voilà. Les femmes étaient belles, je ne savais pas quel métier faire. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça a l'air pas mal du tout. Ça.
Alors Guillaume Henry, vous avez donc grandi à Hume, en Haute-Marne,
oui.
Loin, vraiment loin du sérail parisien, puisque en fait vous avez grandi près de Langres, en pleine campagne. Que faisaient vos parents?
Alors ma maman était professeure au collège. Elle a d'ailleurs été ma prof, et mon père travaillait dans une banque à Langres.
Vous êtes le cadet de 3 garçons. Hein ?
Exactement.
Bon, et de toute la famille, c'est-à-dire si on prend les cousines, de toute la famille. En fait, vous étiez le seul enfant obsédé par la mode. Vos parents observaient ça comme un caprice passager ou une curiosité ou...
Pas comme un caprice, moi j'ai des parents formidables. Déjà je pense qu'ils étaient rassurés de savoir qu'ils avaient un gamin qui savait ce qu'il voulait faire si jeune.
Ouais.
Mais très très complices. Au contraire, ils m'ont accompagné dans ce qui peut-être pensait être une lubie à l'époque. À 10 ans, ils m'ont offert une machine à coudre par exemple. Bon, ça servait à rien parce que finalement je croyais que pour être couturier, il fallait coudre. Et en fait, je suis très très mauvais avec la machine.
Lagerfeld ne savait pas coudre.
Non. On pense souvent qu'un couturier coud. Déjà, je ne me considère pas couturier.
Vous vous considérez comment ?
Alors, je me considère encore comme un styliste, même si aujourd'hui le terme utilisé est directeur artistique. Parce qu'avant, faire des collections, c'était dessiner des silhouettes. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste que ça. On doit penser communication, réseaux sociaux,
ouais.
Comment communiquer autour de la marque, la mode, quelque part, en termes de produits, là où elle occupait une place quasiment exclusive. Aujourd'hui, la mode en tant que produit est beaucoup moins exclusive. C'est-à-dire qu'on va penser davantage à la notoriété d'une marque qu'au produit pur.
Donc on est un chef d'orchestre.
Absolument. Mmh. Ou un chef de brigade en cuisine.
On revient à la gourmandise.
Toujours.
Alors moi, je reviens à l'enfance. On vous a offert votre première machine à coudre. Effectivement, vous aviez 10 ans. Mais il paraît qu'à 10 ans, Guillaume Henry, vous dessinez vos collections avec tous les accessoires, sacs, chapeaux. Et le plus formidable, c'est que vous indiquiez sur tout ce que vous dessiniez le prix.
Mais c'est dingue. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Mais c'est vrai que, en fait, gamin, je dessinais, comme tous les petits gosses, des avions, des bateaux, des sous-marins. Et du jour au lendemain, je dessinais des vitrines avec des mannequins, avec des noms farfelus comme Folitude, Minouche.
Ah, en plus, vous les bâtissiez.
Bien sûr, bien
comme
sûr.
Dans le film Falbala.
Totalement, totalement. Et le prix. Le prix qui me semblait être juste. Alors aujourd'hui, je suis retombé sur les dessins il n'y a pas longtemps.
Et alors ?
Ah ben j'avais une sacrée estime de moi-même et de mon travail. Hein. Ça coûtait une petite fortune.
C'est merveilleux. Alors Guillaume Henry, une fois venue l'heure des vrais choix de vie, vous avez d'abord opté pour les Beaux-Arts, puis vous avez intégré l'école Dupéret et l'Institut français de la mode à Paris. Alors quand on sort de l'Institut français de la mode à Paris, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on ignore ? Est-ce qu'on est armé pour ce métier ? De créateur, de styliste, de couturier.
En fait, c'est un de ces métiers que l'on fait en fonction de ce que l'on est. Donc non, quand on sort de l'école, on n'est pas parfaitement prêt, parce qu'il n'y a pas de mécanique. C'est toute une histoire de sensibilité, de sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous avoir la même façon d'aborder un point de vue esthétique, c'est très singulier. Donc non, on ne sait pas. En fait, je compare presque ça, je crois, sans le savoir, mais à des jeunes internes qui sortiraient de l'école de médecine et qui feraient leurs armes un peu en observation dans le milieu hospitalier. C'est-à-dire que moi, en sortant de l'IFM, ben, je savais que je voulais toujours travailler dans ce métier-là, mais ma véritable nature en tant que créatif, pour résumer, est-ce que je suis quelqu'un qui a envie d'une mode joyeuse, d'une mode, d'une mode nostalgique, d'une mode urbaine, d'une mode sportswear, d'une mode conceptuelle? J'en avais pas vraiment d'idée, donc il me fallait un sas d'apprentissage et d'observation.
Vous n'en aviez pas d'idée, mais quand même, en 2001, donc vous sortez diplômé de cette école et vous décidez de créer tout de suite votre ligne de prêt-à-porter, alors que vous n'avez que 22 ans.
Non mais ça c'est Mazo, hein. C'était...
c'était Mazo. D'abord, vous les avez trouvés comment, les financiers, à 22 ans?
Eh bien figurez-vous qu'ils sont venus. J'ai quand même... Pour le coup, la mode c'est...
En fait, on vous a toujours réclamé, Guillaume
Henry. Non. Non mais j'ai rencontré beaucoup d'anges. Vraiment, ça c'est vrai. Et c'est vrai que je n'étais pas sorti de l'Institut français de la mode, donc l'IFM, que déjà quelqu'un m'avait proposé de lancer mon label, ce qui s'est fait. Et puis comme, un peu à l'image de ces silhouettes que je dessinais quand j'étais gosse, j'avais pas envie de me contenter de dessiner des vêtements. Donc, voilà, sans avoir aucune notion du travail que ça représentait, j'ai dessiné des collants, des sacs, des bijoux, de tout.
Vous avez dessiné de tout. Bon, ça devait fonctionner, mais le 11 septembre 2001, tout le marché international se paralyse. En fait, le 11 septembre a eu raison de vos ambitions, c'est ça ?
Absolument. C'était comme gelé.
C'était comme gelé.
Absolument. Les gens ne voyageaient plus d'envie. La mode dépend d'envie, hein, de l'envie.
Oui, bien
donc
sûr,
là, d'un coup, je sais pas, c'était terrible. C'était terrible. Enfin, je pense que pour tous ceux qui ont traversé ce moment, le 11 septembre, tout le monde se souviendra physiquement où ils se trouvaient.
Bien sûr.
Et les répercussions ont été très violentes dans, j'imagine, énormément de domaines, comme dans le domaine du commerce. Et notamment pour des marques jeunes et fragiles comme la mienne. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, généralement, on se rassure avec des valeurs sûres. Mmh. Et la petite marque Guillaume Henry, elle était pas assez solide pour que les
ça
gens...
Ça n'était qu'une promesse.
C'était qu'une promesse.
Voilà. Ouais. Alors, vous allez donc rejoindre le studio Givenchy.
Absolument.
Parmi d'autres stylistes, puis la maison Polka. Et voilà qu'en 2009, l'année de vos 30 ans, on vous propose à nouveau quelque chose de totalement inattendu, une aubaine pour un jeune créateur, reprendre les rênes d'une belle endormie, la maison de couture Carven, créée juste après la dernière guerre, mais qui avait connu son déclin dans les années 90. Or, vous l'avez ressuscité avec des prix abordables. La presse mondiale s'est mise à parler de vous. C'est une gageure pourtant.
Ah, moi j'aime bien. Moi, en fait, je savais pas ce que je faisais. Donc et quand on sait pas, bah, c'est mieux parfois. Donc, je suis rentré dans cette aventure avec un partenaire formidable qui s'appelle Henri Sebaoun. On était très peu nombreux au début. Moi, j'avais juste des étoiles dans les yeux quand on parlait de Carven. J'avais pas du tout, enfant, l'ambition d'être directeur artistique, de diriger le style d'une maison. J'en avais aucune idée. Mais je pouvais pas passer à côté de ce projet. Carven, c'est... J'aime trop la France, j'adore la notion de patrimoine.
Mmh. Et c'est une mode très française.
Absolument.
Une élégance très française. Bon, alors, réveillez les belles endormies, Guillaume Henry. Vraiment, ça va devenir votre mission, puisqu'en 2018, c'est la mythique maison de couture de Jean Patou, fermée depuis 1987, dont on va vous offrir la destinée. Et l'histoire, elle est absolument incroyable et romanesque. Vous allez nous raconter comment tout ça est arrivé. On se retrouve tout de suite après une très courte pause.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Cher Guillaume Henry, les hasards heureux et l'alignement de planètes grâce auquel un beau jour, on vous a remis les clés de l'une vraiment des plus jolies maisons de couture parisiennes créées en 1910 par Jean Patou et fermées en 1987 après que Christian Lacroix y ait fait des défilés féeriques. Et bien cette histoire, j'ai presque envie de dire qu'elle a tout du storytelling tellement elle est romanesque. Voilà, je plante le décor, on est en 2017. Vous vous baladez dans Paris et puis vos pas vous amènent au cimetière de Passy, donc devant la tombe d'un personnage qui fut flamboyant et avant-gardiste, un personnage décédé en 1936 à 48 ans. Voilà, c'est la balade. Je vous laisse raconter la suite.
Ben ensuite, j'ai rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle Sidney Toledano, qui est en charge de la division mode du groupe LVMH. Voilà, je venais de quitter Nina Ricci et voilà, on entretient des rapports assez à distance, mais je pense que l'un et l'autre, on voulait prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. On s'est donné rendez-vous dans un bar, il m'a demandé comment j'occupais mes journées, je lui parle de mes balades et je lui dis qu'à l'instant, je viens de finir une balade au cimetière de Passy, je le rassure, hein, je suis pas gothique, mais que je viens de finir une balade au cimetière de Passy et que je me suis retrouvé face à face avec la tombe de Monsieur Jean Patou et que, étrangement, ça m'a fait sourire parce que ce nom... je le trouve formidable et joyeux et que ce nom mériterait de revenir.
Vous dites ça à Sidney Toledano. Voilà.
Absolument.
Ok. Et là, en fait, il faut expliquer que Sidney Toledano, donc c'est le président de LVMH Fashion Group, il se met à blêmir.
Bah, pendant une seconde, il y a un espèce de silence qui s'installe. C'est pas ses habitudes. Et là, il me regarde, il me dit voilà, nous venons d'investir dans Patou. Dans Jean Patou. Donc, moi, j'en avais jamais entendu parler.
Il vous dit, mais c'est pas possible. Enfin, comment êtes-vous au courant?
Voilà, et là, j'ai appris un mot que je ne connaissais pas, qui est sérendipité. C'est-à-dire la rencontre de hasard qui crée quelque chose d'heureux. C'est-à-dire que le groupe LVMH vient d'investir dans Jean Patou. Je parle de façon absolument, voilà, spontanée.
Mais le rachat était totalement secret.
Totalement confidentiel.
Et vous lui dites... confidentiel, et vous lui dites que vous étiez devant la tombe de Jean Patou, vous le rejoignez donc dans
absolument.
Ce salon de thé pour parler.
Mais
il
une heure
veut,
avant.
Mais il ne veut pas croire une seconde à un hasard aussi fou.
Ah bah oui, mais est-ce qu'il y a
un
hasard finalement?
Non, ça s'appelle la chance.
Et ben, mais il me dit pas c'est pour vous ou quoi que ce soit. Hein. Moi, il me dit qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis mais c'est formidable, ce nom est magique. Quand j'entends Patou, j'entends nous, j'entends vous, j'entends bisous, j'entends quelque chose de très joyeux, de très généreux. Et moi, on est sorti quand même d'un... Enfin, on est loin d'être sorti, mais c'était encore une période très, très, très apocalyptique. Et dans la mode aussi, c'était sombre. Et moi, j'avais envie d'une mode joyeuse, légère, enthousiaste. Et Patou, d'un coup, ce nom m'a donné toute cette envie, regain d'envie.
Le rendez-vous, donc, s'achève. Chacun repart de son côté. Et que se passe-t-il? Vous attendez quelques jours avant que Sidney Toledano ne vous appelle en vous disant...
En gros, Sidney me dit « Je vous en ai pas parlé, je ne vous ai rien dit. » Ok, très bien. Donc, j'attends rien, en fait, pour être sincère avec vous. Mais quelques jours après, et ça, je crois que je ne l'ai jamais dit à personne, il m'appelle un jeudi soir et il me dit « Voilà, Guillaume, j'ai conscience de vous appeler un peu tard, mais est-ce que vous pensez que pour demain, 9h, vous pouvez réfléchir à une stratégie écrite pour la relance de Jean Patou ?» Donc, j'ai la nuit pour le faire. Et j'adore ça. Il y a quelque chose de très excitant.
Wow.
Donc, c'est en gros, stratégie écrite. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment relancer une marque de mode? C'est pas seulement proposer des vêtements, c'est à qui on s'adresse.
C'est ça.
Sous quelle forme? Quelle est une envie de prix? De tous ces schémas de livraison dont je vous ai parlé. Pas tous, c'est devenu une mode aussi éco-responsable. Et voilà, j'ai pris un plaisir fou à rédiger ça dans la nuit. Entre vous et moi, j'y avais déjà quand même réfléchi bien avant. Donc finalement, ça s'est quand même dénoué très, très simplement, cette histoire. Il a vu mon projet, il l'a regardé en solitaire, je pense, j'étais pas avec lui. Et il m'a rappelé quelque temps en me disant, si vous êtes d'accord, on y va.
Waouh! Alors, Guillaume Henry, Lagerfeld, avant vous, au début de sa carrière, hein, fut directeur de Patou au tout début des années 60.
Premier job.
Voilà, premier job de Lagerfeld. Et puis votre idole, votre pop star à vous, Christian Lacroix, qui emmena très très haut donc la haute couture avec cette maison, n'est-ce pas? Puisqu'il y fit son dernier sublime défilé chez Patou. Mais quel héritage!
Ah oui, j'ai une petite pression. Mais bon, j'évite d'y penser. Je ne cherche pas à m'inscrire après Lagerfeld ou après Lacroix. Je cherche juste à faire vivre l'histoire de Jean Patou. Mais c'est vrai que pour moi qui suis... Voilà, je vous parlais tout à l'heure de Saint-Laurent et de la vocation née des premières images de Saint-Laurent que j'ai pu voir enfant. Lacroix, pour moi, c'est un dieu. C'était ma pop star. J'avais littéralement ses photos sur mes murs dans mes chambres d'ado.
Alors, désormais, Guillaume Henry, avec Patou, Patou totalement dans l'air du temps, hein, sans boutique, avec vente en ligne, tissu bio, transparence des lieux de production, et bien avec cette maison Patou, Sidney Toledano ne parle plus justement de maison de couture, mais bien de start-up. Patou.
Ouais.
Ça veut dire à quel point c'est ancré dans la modernité. Voilà, on est entré vraiment dans une ère nouvelle de la mode qu'on va évoquer tout de suite avec Guillaume Henry.
Europe 1.
chance avec elle, je l'ai prévenu. Mais veux essayer quand même, il était dû. Il ne veut pas des mecs qu'on sait, me sourit d'un air entendu. Puis s'en va recevoir sa peine, le cœur léger, la joue tendue. Il ne m'écoute jamais, il fait ce qui lui plaît. Quand encore ne connaît ni remords ni regrets.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Il est jeune, passionné, il préside aux destinées de la maison de couture. Pas tout. Je reçois Guillaume Henry. Guillaume Henry, est-il vrai que lorsqu'il s'est agi d'embaucher la nouvelle équipe de la maison Patou, c'est-à-dire les stylistes du studio, les modélistes de l'atelier, les acheteurs des matières, les gens de la com, du digital, eh bien, est-il vrai que vous avez posé à chaque candidat cette question saugrenue? Que feriez-vous avec 4000 euros ?
Je pense que je l'ai posé à pas mal de personnes. Parce que, en fait, quand on monte une équipe évidemment avec des gens qui ont un vrai savoir-faire, une vraie qualité professionnelle, mais on monte aussi une équipe avec des gens, de l'humain. Et dans la mode, on passe, c'est vraiment pas le seul des métiers qui demande autant d'engagement, mais on passe beaucoup de temps avec les équipes. Et j'avais vraiment envie qu'au-delà d'une équipe, ce soit une famille, une petite famille. Parce qu'on n'est pas nombreux, mais tout le monde est extrêmement investi. Et j'avais envie d'être entouré de gens qui aient d'autres centres d'intérêt que forcément la mode.
Alors, qu'est-ce que vous aviez envie d'entendre comme réponse, justement? Et qu'est-ce que... Alors, ceux que vous avez choisis ne sont pas ceux qui vous ont dit « Oh, avec 4000 euros, j'achèterai le manteau couture de mes rêves. » Non. Que vous a-t-on répondu majoritairement?
Ah ben, je respecte celui qui va vouloir investir de 4000 euros dans un manteau. C'est aussi formidable pour l'industrie.
Bien sûr.
Mais j'aime bien aussi la personne qui... En fait, j'adore la mode, mais je vais peut-être vous surprendre, hein, mais ce n'est pas totalement ma vie. C'est mon métier, ma passion. Je suis complètement fou de ce métier, mais pour moi, la vie, c'est la vie qu'on mène. C'est les gens qu'on rencontre, c'est les souvenirs qu'on se fait. J'ai une chance folle, c'est de faire au quotidien un métier qui est une passion. Et j'avais envie d'être entouré de gens qui ne mangent pas mode, qui ne dorment pas mode, qui ne respirent pas mode, mais qui respirent la vie et qui s'amusent, qui tombent amoureux.
Donc avec 4000 euros, ils vous ont dit par exemple qu'ils iraient au bout du monde vivre une expérience incroyable.
Ils gâteraient leur famille, voilà. Ils se feraient un resto hystérique, des souvenirs. En fait, voilà, j'avais envie d'une équipe qui est sensible aux souvenirs et aux émotions.
Alors, Jean Patou a été rebaptisé. Patou, en fait, c'est un nom qui claque, hein, un peu comme Dior, ouais. D'ailleurs. Don Cocteau disait que Dior, ça marie Dieu et or. Mais Patou, ça claque. Pas besoin de prénom.
Bah, le prénom, il est avec nous tout le temps. Comment vous dire? Jean Patou, c'est en effet, hein, vous le disiez très bien, une des premières maisons de couture françaises, en tout cas une des plus anciennes. Et elle a été plus ou moins oubliée pendant 30 ans. Déjà, l'activité couture s'est terminée en 87 avec le départ de Lacroix.
Il ne restait que les parfums.
Que les parfums. Et 30 ans, c'est une génération. Donc pour beaucoup de gens, Jean Patou n'évoquait rien. Et pour certains marchés non plus. Aujourd'hui, on est, contrairement à peut-être il y a 30 ans, on est dans une distribution qui est internationale. C'est-à-dire qu'on doit penser en même temps le marché français et parisien, comme vous disiez tout à l'heure avec la parisienne. Mais on n'habille pas que la parisienne, on habille aussi la coréenne, la chinoise, l'indienne. Donc... il faut penser global. Et pour certains pays, Jean Patou n'existait même pas comme un souvenir.
Ouais, ouais.
Donc, il fallait... C'est drôle parce que c'est ça que j'adore avec ce projet. C'est que c'est une création et une recréation. C'est à la fois maintenir le souvenir et l'héritage de Jean Patou, l'homme et la maison, mais aussi donner envie d'investir dans une nouvelle marque qui vient de se relancer sur le marché, Patou. Donc, nous, c'est pas tout, parce qu'on a fait le choix d'un nom plus, quelque part, dynamique, mais ouais, Jean est avec nous tout le temps. Hein. Moi, je pense Jean toute la journée.
Mais alors, les résurrections de maisons de couture sont pas une chose évidente, car par exemple, Vionnet, Poiret, je pense à Schiaparelli, les investisseurs de ces maisons-là se sont arrachés les cheveux. Autre temps, autre nécessité, autre code. En revanche, vous, Guillaume Henry, vous avez ressuscité Carven, qui a maintenant d'ailleurs des points de vente dans le monde entier, et vous êtes en train de ressusciter Patou. Alors, quelle est la botte secrète?
Parce que je prends ces maisons, je crois, pour des maisons jeunes. Je ne compare pas ça du tout avec les autres maisons, chacun a son schéma. Mais pour moi, c'est drôle, quand je rentre dans une maison, je n'envisage pas cette maison comme une entreprise, mais comme une personne. Pour moi, je suis arrivé chez Carven en me disant « c'est qui Carven ?» Et là, Patou, c'est le même exercice. C'est qui Patou? Et en fait, des traits de caractère, ça définit pas un âge ou une histoire. C'est très frais. En fait, j'en parle comme de quelqu'un, et de quelqu'un finalement de frais et de quelque part de jeune. Parce que
alors,
pour moi,
dites,
l'âge, c'est l'esprit.
Vous dites jeune, charmant, frais. Guillaume Henry, on est à une époque où règne le streetwear, n'est-ce pas? Avec les sweats, les blousons, les jeans, les joggings, les baskets. La fantaisie poétique, justement, chic, décalée, fraîche, charmante d'une griffe comme Patou, elle a absolument sa place dans tout ça.
Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse de ce qui fonctionne pour avoir une raison d'exister. Sinon, quel intérêt? La place est prise. Donc, je ne voulais pas faire de Patou une marque. En plus, je voulais faire de Patou une marque différente.
Alors, parlons de votre mission. Quand Sidney Toledano, je le rappelle, le président de LVMH Fashion Group, vous a donné les clés de la maison Patou, vous êtes mis à traquer toutes les archives que vous pouviez trouver. Or, des archives, il n'y en avait presque pas. Pourquoi ?
Bon, Patou avait tellement déménagé, la maison avait été tellement rachetée, reprise, revendue, que finalement, entre les pertes, les disparitions, les choses peut-être égarées et autres, non, il n'y avait plus grand-chose. Finalement, je préfère, moi.
Ça a été une aubaine.
Oui, il n'y a pas de fantômes. Donc, tant mieux.
À la limite, limite, ce qu'on connaît presque le mieux, c'est le créateur, c'est-à-dire Jean Patou, qui était un personnage...
C'est Gatsby.
C'est totalement Gatsby.
Ouais,
hein.
Il aimait la vitesse, il collectionnait les voitures, il collectionnait... Bon, c'est pas forcément le trait le plus sympathique, parce qu'il a, il a quand même brisé beaucoup de cœurs. Bon, il y a peut-être des légendes, mais moi, j'aime bien les légendes aussi.
Mais
hein.
Oui, mais oui.
Mais oui, il a fallu faire, avant de penser même une robe, une jupe, un pantalon, un pull, il fallait faire, et ça j'aime bien, un travail presque de recherche, d'archiviste, d'archéologue. Donc on a rencontré un maximum de gens, on a tapé aux portes des musées, ils nous ont ouvert leurs collections privées.
Mais il restait plus grand-chose.
Alors, on a vu beaucoup de choses. Et dans les murs de Patou, de toute façon, on n'avait pas de mur. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus d'adresse. Il a fallu trouver une nouvelle adresse qui incarne la maison. Ça, c'était génial aussi. Visiter dans Paris un lieu qui incarne la marque. Oh, ça, c'était une expérience fabuleuse.
Trouver un lieu pour, en fait, un fantasme de légende. Puisque,
absolument,
justement, il y a si peu d'archives. Donc, ça veut dire que là, tout est dans la projection. Quoi.
Tout est dans la projection. Et en fait, c'est comme apprendre et hop, oublier. Donc j'ai pris le maximum d'informations que je pouvais trouver, moi et les équipes bien sûr, et puis après ça suffit, commençons, parce que si on fait de la réplique d'archives, on n'est pas dans le contemporain. C'est intéressant, je crois. Alors je vais certainement pas me comparer à Picasso, mais Picasso a dit, je crois, j'ai mis une vie à dessiner comme un enfant. Et ben ça j'aime bien, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, et puis à un moment, ben laissez aller, parce que finalement vous aurez tellement appris que l'essence de la maison, la vérité sur la marque, elle est dans tout ce que vous ferez, mais de façon plus organique.
On retrouve tout de suite Guillaume Henry.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Guillaume Henry, quelles sont les révolutions intérieures qui secouent le monde de la mode depuis la crise du Covid?
Énorme. Et c'est marrant. Je ne sais pas encore quelles sont les répercussions dans la société, parce que la mode, parfois, voilà, elle provoque des changements dans la société.
Et
aujourd'hui,
pour l'instant, on est sur pause.
Bah, on est un peu sur pause. On voit même pas plus loin que son mur ou son écran, hein, vraiment. On voyage pas. La mode, c'est quand même un des vecteurs qui nous autorise à voyager à travers le monde. Aujourd'hui, on fait un peu du surplace, et ça, je le comprends. Mais je me demande comment dans quelques temps, quelques années, quelques mois, quelques semaines, j'espère, tout ce qu'on est en train de faire dans le domaine de la mode va avoir des répercussions sur la société. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai une envie de fantaisie comme jamais.
Oui.
J'aime bien la notion de fantaisie, de donner une couleur à la journée à travers les vêtements qu'on fait.
Et ça n'a jamais été plus nécessaire qu'en ce moment.
Absolument. Absolument.
Mais alors, je vous parle de révolution intérieure. Par exemple, de plus en plus de maisons de couture vont renoncer au défilé pour privilégier les vidéos en ligne. En fait, l'ère des top modèles est révolue.
Moi, je me suis toujours senti un peu en marge par rapport à tout ça. Déjà, je sais pas tout. Nous, on ne fait plus de défilés depuis pas mal de temps déjà. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que un défilé, pour être sincère avec vous, c'est une expression qui dure 6 minutes de plusieurs mois de travail. Mmh. Et un jour, j'ai réalisé que j'avais jamais vu un de mes défilés. Ben, on est toujours derrière. Et c'est horrible. Ben, pourquoi je peux pas faire partie de la fête? Donc je me suis dit, je vais arrêter les défilés parce que c'est une présentation de mon travail, mais je suis pas là. C'est comme si j'invitais des gens à table, mais je venais jamais m'installer avec les autres. J'ai trouvé ça très triste.
Désormais, vous invitez en fait la presse.
Oui.
Dans les salons, dans les ateliers de Patou.
Et je suis là, toute la journée.
Au milieu des mannequins.
Au milieu des mannequins.
Et au milieu des premières d'ateliers.
Au milieu des premières d'ateliers qui sont là, parce que j'adore aussi qu'on voit les gens travailler. Je suis rien tout seul. Hein. Et il n'y a rien de plus beau qu'un atelier. D'ailleurs, chez Patou, la première chose qu'on a fait, c'est de...
On rentre par l'atelier,
absolument. C'est-à-dire que normalement, dans les maisons parisiennes, les ateliers sont un peu cachés.
Ouais, il ne faut pas connaître les coulisses.
Il ne faut pas connaître les secrets de fabrication. Je vais vous dire, on travaille sur des toiles blanches complètement anonymes. Donc personne ne peut lire vraiment un volume sur lequel on travaille, mis à part la personne qui l'a dessiné et la personne qui en fait le moulage en trois dimensions. Donc j'adore que ça se voit. Et vous savez, c'est une telle chorégraphie de voir un atelier en mouvement. C'est tellement beau.
Alors, il y a toujours eu d'ailleurs des différences frappantes entre les collections présentées à la presse pour les Fashion Week et puis les modèles commercialisés. Ça dit bien que la mode et son imaginaire, quand même, ont pour limite la vie vraie.
Oui, la mode, elle se veut quand même une image fantasmée du quotidien. Mais encore une fois, si je parle de ma propre expérience, tout ce que l'on va présenter ou montrer, je ne sais pas tout, on va le vendre. Parce que j'aime pas trop la triche. Voilà.
Mais alors, avec LVMH, vous avez décidé donc que la Maison Patou n'aurait pas de boutique, c'est-à-dire pas d'adresse physique, donc fonctionnerait en ligne, ce qui est révolutionnaire pour une maison de couture, sans jamais faire de défilé, et en créant des modèles à partir de matières organiques ou issues du recyclage. En fait, vous emmenez la couture dans le monde d'après.
Bah, j'espère. En tout cas, vous savez, quand j'ai quitté Nina Ricci pendant quelques temps, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir et me poser. Et on est dans un rythme, vous en parliez tout à l'heure, qui est assez chronophage. Hein. C'est-à-dire que les collections se superposent, on ne sait plus vraiment parfois sur quelle collection on travaille, on en fait trois en même temps, parfois l'homme en plus, une opération spéciale pour je ne sais pas quelle boutique. Donc des fois, on est un peu jet-lagué, on est en perte de repères. Et en fait, un jour... Je crois que j'étais assis dans un jardin et j'ai visualisé le nombre de vêtements que j'avais pu faire et qui, ces vêtements, ont été manufacturés, produits. Parce que des fois, je dessine un manteau, mais il peut être fabriqué en 600 exemplaires à la vente.
Bien sûr.
Donc, et en fait, ça a fait une petite montagne. J'ai vu une montagne de vêtements. Et je me suis dit, est-ce qu'on a besoin de tout ça?
Oui.
Et ben, pourquoi ne pas essayer de faire mieux en faisant moins?
Alors, mieux en faisant moins. Alors, tiens, justement, soyons très concrets. Guillaume Henry, qu'est-ce que, on va dire, une femme d'âge moyen doit toujours avoir dans sa garde-robe? Je parle vraiment des fondamentaux. Ce qui vous semble important pour qu'une femme qui traverse les saisons, voilà, soit toujours au mieux d'elle-même.
Quand vous parlez de fondamentaux, je crois à une forme de le basique.
Oui. Ça oublions les jeans. Hein.
Ça va vous mais paraître très bizarre, je dirais une chemise d'homme.
Une chemise d'homme.
Oui, j'ai envie de vous dire une chemise d'homme. Bah parce que vous pouvez être n'importe quelle femme avec une chemise d'homme. Je ne suis vraiment pas en train de faire
tout
la pub pour mon métier.
Tout est dans la manière de rouler les manches,
absolument.
De remonter le col, de savoir
absolument.
Jusqu'où on la déboutonne et de voir quel accessoire on met avec.
Ceinturée, pas ceinturée, une chemise d'homme, vous pouvez être la femme que vous voulez.
Et voilà, c'est, je pense à Marilyn qui était sublime dans juste un pull trop grand.
Absolument.
Voilà. Et cette question, Guillaume Henry, dans le monde d'après, la mode sera androgyne?
Elle sera sans genre, oui. Je ne sais pas si c'est même androgyne, sans genre. C'est très intéressant. Je remets même en question, je vais être tout à fait franc avec vous, le fait que je sois un designer de prêt-à-porter féminin. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, féminin? Ça veut dire que c'est clivant. C'est-à-dire que ce n'est que pour les femmes. Eh bien, je vais être sincère avec vous. J'ai décidé d'être un designer de prêt-à-porter du monde. Qui veut, peut. Ça ne
c'est
me ça. Regarde pas
voilà.
du tout. Et
après,
j'aime beaucoup ça.
Après, c'est à la gente masculine ou féminine de choisir parmi les pièces que vous proposez.
Absolument.
Mais lorsque, parce que vous avez, par le passé, dessiné des collections pour hommes, quand vous étiez, par exemple, chez Carven.
Absolument.
Ça, vous dites que en fait, on est quand même plus bridé quand on dessine pour les hommes. On est plus créatif, théoriquement, quand on dessine pour les femmes. Ça, c'était par le passé. Maintenant, ouais. Tout est plus ouvert.
Plus ouvert et en même temps, tout communique davantage. Vous voyez maintenant, les défilés hommes et femmes sont souvent mélangés. Franchement, pardon, mais à part des différences physiologiques évidentes, on peut être qui on veut. Enfin, je suis devenu très sensible à ça. Et vraiment, c'est un changement radical qui peut être perturbant. Ça, je l'entends. Mais très,
mais il va
très...
s'y habituer.
Mais tant mieux, j'ai envie de dire, parce que... Bah parce que je trouve... Moi, personnellement...
En fait, c'est un décloisonnement.
Ouais, et je trouve ça... J'ai été décontenancé quand, d'un coup, les choses qu'on m'avait apprises, inculquées, ou que j'avais vues, se sont un petit peu transformées. Mais aujourd'hui, je trouve ça formidable. Je suis content de ce qu'on vit.
Et moi, je suis ravie de bavarder comme ça avec vous. On fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Guillaume Henry.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
La Belle au bois dormant avait attendu 100 ans qu'un jeune prince la réveille. La maison de couture Patou aura attendu 30 ans avant qu'un jeune créateur ne la ressuscite. Je reçois Guillaume Henry. Cher Guillaume Henry, vous n'aviez que 13 ans lorsque vous avez eu l'audace, la jolie audace d'écrire votre première lettre à Christian Lacroix. Que lui disiez-vous dans ce courrier ?
Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je pense qu'aujourd'hui, déjà, je lui aurais envoyé un Instagram.
Sûr.
Mais à 13 ans, j'ai écrit à Christian Lacroix parce que c'était mon, voilà, c'était mon idole. Un designer merveilleux, baroque. Il me semble, lui, avoir témoigné, évidemment, mon admiration. J'étais... Il me semble persuadé que cette lettre ne lui arriverait jamais. Je lui écris d'ailleurs, je suis persuadé que vous ne lirez jamais cette lettre, mais...
Mais vous saviez à quelle adresse en tout cas
Oui, je l'ai envoyé à sa maison mère, qui était rue Saint-Honoré, il me semble.
Et vous avez eu une réponse.
Et j'ai eu une réponse, absolument.
Et que vous a-t-il dit?
Alors, c'est ma mère qui m'a appelé de ma chambre. Guillaume, tu as reçu une lettre de Paris. Je suis descendu en trombe et j'ai vu cette lettre, je tremblais. Lettre que j'ouvre, et là je reconnais cette écriture que j'avais vue tellement dans des magazines, comme une dentelle, comme ça. Il écrit divinement bien, difficile à déchiffrer, mais très belle écriture. Il a utilisé dans la première lettre, dans la première phrase, je m'en souviens très bien, « J'ai finalement, vous voyez bien, reçu votre lettre pleine de circonvolution. » J'avais jamais entendu ce mot, circonvolution. Donc, ouais. Et il m'a demandé de lui envoyer des croquis.
Oh.
Eh bien, petit prétentieux que j'étais, je lui ai envoyé des photocopies.
C'est extraordinaire.
Je devais avoir peur qu'il me copie, évidemment. Et là, il m'a de nouveau répondu en me donnant quelques jolis conseils. Et il m'a dit, si à l'occasion vous montez à Paris, nous serions ravis, chez Christian Lacroix, de vous inviter à découvrir les salons couture. Et je crois que ça a été un de mes premiers voyages à Paris.
Voilà, et dès que vous êtes arrivé à Paris la première fois, bien sûr, vous avez sonné à la maison mère de Christian Lacroix.
Ah ouais, quel souvenir magnifique.
Et alors, il était là.
Alors, il n'était pas là. J'ai réalisé aussi bien après, quand je l'ai rencontré, quand je lui ai rappelé l'épisode de la lettre, il m'a dit, écoute, des lettres, j'en recevais une bonne trentaine par jour et je répondais à chacune. Donc, je n'étais pas le seul. Donc non, il ne m'attendait pas. Par contre, j'ai été accueilli par Marie Seznec, qui était sa mannequin, muse fétiche et directrice de la haute couture.
Avec ses cheveux argent, n'est-ce
Absolument.
Pas, alors qu'elle était si jeune, top modèle, ressemblait à une marquise du 18e.
C'est tout à fait ça, délicieuse. Elle m'a installé dans les salons couture, j'étais dans un sofa Garouste et Bonetti, les designers de l'époque. Elle m'a servi un café... J'étais entouré de tellement de beauté qu'à
Vous
un moment...
Vous aviez quel âge, Guillaume Henry ?
Je devais avoir 16 ans, 15 ans, 15-16 ans. Et ben, je suis parti en courant.
Parce que ?
Ah ben, j'ai trop de beauté. j'ai pas pu rester plus de 10 minutes.
Alors, je reviens à l'année de cette lettre. Cette lettre à laquelle Christian Lacroix a si gentiment répondu. Lacroix l'a reçue en 91, donc à l'apogée de son art, alors qu'il dirigeait sa propre maison financée par LVMH. Est-ce que cette flamboyance de la haute couture, très narrative, hein, chez Lacroix, qui s'inspirait de Arles, il s'inspirait des costumes de cour. Est-ce que vous avez le sentiment que cette flamboyance-là, elle a définitivement disparu ?
Non, elle n'a pas du tout disparu, elle s'est déplacée ailleurs. Lacroix restera...
Elle s'est déplacée où ?
Je pense que Lacroix faisait référence aussi à ses origines, à des pièces qui l'ont marqué, à des héroïnes de son propre panthéon.
Ouais.
Aujourd'hui... Vous m'avez gentiment comparé à un jeune prince tout à l'heure. J'ai quand même 42 ans,
non,
ce qui fait plus de moi un jeune prince.
J'assume et j'affirme.
Vous avez des créateurs de 20 ans.
Ouais.
Et leur flamboyance, elle est ailleurs, dans d'autres références. Et c'est extraordinaire à regarder. Mais voilà, j'ai 20 ans de différence avec eux. Mais entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux, le digital, cette accélération folle. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai pas 20 ans de différence avec eux, mais 40. Et c'est pas grave. C'est pas
grave. Mais il y a quand même toujours une part d'enfance dans la capacité à imaginer. En fait, un créateur de mode, il redessine le monde à son goût un peu, vous allez me pardonner, comme un vieil enfant.
Ouais, c'est
tout
ça.
Tout le temps.
C'est ça. Bah, par exemple, je crois que je serai toujours hanté, c'est pas le bon terme, mais motivé par des images que j'ai vues enfant, des valeurs que l'on m'a données, un quotidien. Moi, j'ai une enfance à la campagne où on grimpait dans les arbres et on allait déjeuner chez la grand-mère le dimanche. Mmh. J'ai pas eu une enfance urbaine. Mmh. Je n'avais pas accès à des magazines de mode. Je savais même pas que ça existait. La mode, je l'ai découvert à travers des livres d'histoire. Mmh. Moi, mes premières images de mode, c'est le rapport aux vêtements, de façon très pragmatique. C'est tu t'habilles bien le dimanche.
Voilà.
Donc il y a peut-être ça aussi dans mon travail.
Ouais.
Et aussi des références culturelles très fortes, parce que bah, je suis le dernier enfant, voilà, j'ai deux frères aînés. Et voilà, moi, ce que j'aimais, c'était pas forcément jouer avec mes frères, c'était de regarder des bouquins d'histoire. Et, je regardais,
et dessiner des costumes.
Et voilà, moi, j'ai recopié. Pour mon entrée en sixième, mon père m'a offert l'encyclopédie du costume. J'ai tout redessiné.
Magnifique pour les fondamentaux. Alors, Guillaume Henry, pour Carven, pour Nina Ricci, désormais, pour Patou, vous avez créé, vous nous l'avez dit d'ailleurs, lorsque un jour vous étiez comme ça arrêté dans un parc à Rêvassy, vous avez créé des milliers de vêtements. Mais qu'avez-vous envie de raconter à présent au travers de la mode, de votre mode ?
C'est une façon de se surprendre aussi personnellement. Ce n'est pas une envie de raconter. Je pense que j'arrêterai quand j'aurai l'impression de ne plus rien avoir à dire, ou en tout cas où je serai voilà, dans la capacité totale de me surprendre. Chaque nouvelle saison est une envie de pas de faire mieux, de se surprendre, donc d'être animé.
La tentation de l'aventure en solo, elle ne vous effleure pas ? Il n'y aura pas un jour de maison Guillaume Henry ?
J'ai tellement pas l'âme d'un entrepreneur, vous n'avez pas l'idée. Ah oui, moi, la notion de société, d'entreprise, je vois déjà des ribs qui s'empilent. Et des... Ah non, non, non.
Moi, vous savez, de l'URSSAF.
Voilà. Moi, je suis très heureux avec un papier et un crayon.
Non, mais parce que Lagerfeld, par exemple, est resté bien évidemment fidèle jusqu'à son dernier souffle à la maison Chanel. Mais parallèlement à ça, il avait sa griffe à son nom avec ses codes plus personnels. Non.
Ça non. Pourrait venir si...
Sans lâcher une maison emblématique comme Patou.
Ah non, mais, alors, mais je suis fiancé à Patou.
Voilà, marié.
J'aime bien la notion des fiançailles qui s'éternisent, ça me plaît beaucoup,
c'est
ça.
C'est plus joli, vous avez raison. Mais bon, puisque j'ai évoqué Lagerfeld, bah, vous connaissez sa réplique fameuse. « Je suis superficielle avec une grande superficie ». Façon de dire qu'en fait, rien n'est moins superficiel que ce qu'on semble faire avec légèreté. Alors Guillaume Henry, quelle trace, en fait, aimeriez-vous laisser dans ce monde de l'éphémère qu'est la mode ?
J'adorerais que mes vêtements participent à des souvenirs personnels. Rien n'est plus tendre et beau pour moi que quelqu'un qui, et ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé, m'arrête dans la rue en me disant « Je me suis marié dans une de vos robes ». Et j'ai rien envie de laisser comme une trace, mais peut-être des traces individuelles.
La prochaine collection Patou, elle sort quand ?
On est en plein dedans,
oui.
Et elle sera présentée à la presse au début de l'été.
Et on pourra la découvrir en ligne sur les réseaux sociaux,
très
sur Instagram.
Absolument.
Bon, et puis je précise à nos amis auditeurs d'Europe 1 que, voilà, si un jour ils ont l'opportunité de s'attabler chez Carette, place du Trocadéro, à Paris, dès que, bien évidemment, les salons de thé auront rouvert, on croise les doigts, eh bien, je parle de ce lieu parce que c'est là qu'il y a eu la rencontre prodigieuse avec Sidney Toledano, qui finalement vous a donné les clés de Patou, eh bien... Ses amis auditeurs pourront déguster un patou. Et c'est quoi un patou ? C'est une délicieuse génoise à la rose qui les réconciliera avec le goût du bonheur. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette balade et infiniment d'avoir répondu si généreusement. Et puis bravo de recolorer ainsi ce monde qui en a tant besoin. Guillaume Henry, à bientôt.
À bientôt, merci infiniment.